VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous. Le monde aujourd'hui, Abdourahmane Dia, la présentation. Bienvenue dans cette édition de 18h30, temps universel. On est le 27 juin 2017 au sommaire. Malgré la multiplication des drames, plus de 8000 migrants ont été secourus en deux jours au large de la Méditerranée. Nouveau faux pas dans les accords de Rome entre groupes armés centrafricains. Le cardinal Zapalenga affirme n'avoir mandaté personne. Interrogation sur le sort de Malam Ibrahim Diko, chef du groupe islamiste burkinabé Ansarul Islam.
Soit il a été tué lors d'une opération Barkhane, ou il a été victime d'un règlement de compte au niveau même de son organisation. C'est l'impression que le communiqué donne.
Interview à suivre dans la partie magazine de cette édition. Une cour d'appel à la Haye reconnaît l'État néerlandais partiellement coupable du meurtre de 350 musulmans à Srebrenica en 1995. Et ne ratez pas les informations sur l'actualité économique et les sports. Mais tout d'abord, le journal. Tout d'abord au Togo, condamnation à 12 mois avec sursis de deux étudiants arrêtés après les manifestations à l'université de Lomé. Plus de détails avec Claire Morin-Jubourg.
Poursuivi pour trouble à l'ordre public, aggravé de destruction de biens, Marius Abagenon et le principal meneur du mouvement des étudiants, Foli Sachivi, sont détenus à la prison civile de Lomé depuis le 14 juin. Ils ont été condamnés hier soir à un an de prison avec sursis par le tribunal de Lomé. Leurs avocats ont décidé d'interjeter appel de cette décision. Maître Raphaël Kandé Adzaré, président de la Ligue togolaise des droits de l'homme, s'est déclaré déçu et déplore une justice à deux vitesses. Le 19 juin, sept autres étudiants accusés de rébellion et de dégradation de biens publics avaient été libérés après avoir été déclarés non coupables par le juge. À la mi-juin, des affrontements ont opposé des étudiants à la police sur le campus de Lomé. Des étudiants qui exigeaient la construction de nouvelles salles de cours et l'augmentation des bourses mensuelles.
En République centrafricaine, le cardinal Dieudonné Zapalenga, président de la conférence épiscopale, a déclaré n'avoir mandaté personne à Rome pour la signature d'un accord de paix entre groupes armés, alors qu'un des signataires s'est réclamé de la CECA. Dans un communiqué, il dénonce le fait qu'un des signataires s'est présenté comme son émissaire. Le 19 juin, 13 groupes rebelles sur les 14 recensés dans le pays ont signé à Rome un accord prévoyant un cessez-le-feu immédiat sous le parrainage de la communauté catholique Sant'Egidio. Dès le lendemain de la conclusion de l'accord, le cessez-le-feu avait été rompu à Bria où de violents affrontements ont fait une centaine de morts. En République démocratique du Congo, 10 nouvelles fosses communes ont été découvertes sur l'axe Tchikapa, Sumbula et Dikolo dans le Kasaï. Et selon le procureur général de la République, Flori Kabongé, une importante équipe conduite par un magistrat s'est déjà rendue sur les lieux sur instruction de l'auditeur général des forces armées de la RDC. Il a par ailleurs annoncé avoir reçu l'autorisation de l'Assemblée nationale pour enquêter sur l'affaire Clément Kankou. Écoutons le procureur général de la République, Flori Kabongé, au micro de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
Le parquet général de la République s'active à rechercher les éventuels tireurs des ficelles dans cette grave et sinistre affaire. Il s'agit d'une démarche en vue d'identifier avec précision les donneurs d'ordre, les commanditaires, afin qu'ils subissent la rigueur de la loi. C'est dans ce cadre qu'un dossier judiciaire y est ouvert à charge du député national Clément Kankou, à partir notamment de l'élément sonore se trouvant dans les dix dossiers qui reprend une conversation téléphonique entre les dix députés nationale recevant le rapport détaillé d'actes de destruction, d'incendie et d'exaction en cours à Tchimboulou en date du 8 août 2016. L'honorable député y exprime sa pleine satisfaction et encourage son interlocuteur à faire davantage.
C'était le procureur général de la République en RDC, Flori Kabongé. Dans l'est du Kenya, à la frontière avec la Somalie, 4 enfants et 4 policiers ont été tués et plusieurs autres personnes blessées par l'explosion d'un engin piégé au passage de leur véhicule. Le point avec Idriss Fall.
L'explosion s'est produite sur la route entre Magarani et Kiunga, près de la frontière somalienne. Le camion de la police a heurté un engin explosif artisanal. Il y a eu au moins 8 morts, 4 policiers et 4 enfants, ainsi que plusieurs blessés. Les enfants rentrés après la fête de l'Aïd el-Fitr, qui marque la fin du Ramadan, ils devaient revenir sous escorte policière à Kiunga, où se trouve leur école. Le mois dernier, 4 policiers et un civil ont été tués dans la même zone par un engin piégé placé sur la route. Au total, 20 policiers et 15 civils ont été tués dans des attaques similaires ces dernières semaines dans les comtés de Mandera et Garissa, un peu plus au nord. L'attaque de ce mardi n'a pas été revendiquée, mais l'est du Kenya est le théâtre d'une vague d'attentats revendiquée pour la plupart par les Chebabs somaliens.
Toujours au Kenya, la commission électorale a indiqué qu'il y a 5 millions d'électeurs de plus qu'au scrutin précédent, alors que des doutes subsistent sur le nombre de personnes décédées encore présentes sur ces listes. Le registre finalisé par la commission électorale compte près de 20 millions d'électeurs, soit une hausse de 36% par rapport aux élections de 2013, marquée par la victoire à la présidentielle d'Uhuru Kenyatta face à Raila Odinga. Le prochain scrutin présidentiel opposant encore une fois les deux rivaux est prévu le 8 août prochain. Au Zimbabwe, la police a interpellé le pasteur Evan Muarire, l'un des leaders de la contestation anti-Mugabe. Il a été inculpé d'incivilité dans l'espace public pour avoir soutenu publiquement des étudiants en grève. Le pasteur a déjà été arrêté en février à son arrivée à l'aéroport de Harare, alors qu'il rentrait de plus de 6 mois d'exil. Il a été libéré une semaine plus tard contre le versement d'une caution et l'obligation de se présenter 2 fois par semaine à la police. Le directeur du Programme alimentaire mondial demande à l'Union européenne de l'aider à réunir 1 milliard de dollars pour sauver des centaines de milliers d'enfants menacés par la faim au Soudan du Sud, en Somalie, au Nigeria et au Yémen. Le chef du PAM, David Beasley, a lancé un appel aux pays riches comme la Grande-Bretagne, l'Allemagne et en particulier la France pour qu'ils envoient davantage d'aide. Nous y reviendrons dans la partie magazine. Plus de 8000 migrants ont été secourus au cours des dernières 48 heures en Méditerranée au large de la Libye, dont 5000 ce lundi. C'est ce qu'ont indiqué des gardes-côtes italiens. Les détails avec Tatiana Mosso.
De nombreux navires des gardes-côtes et de la marine militaire impliqués dans le dispositif Frontex, l'Agence européenne des frontières, et des ONG ont participé à ces opérations. L'équipage espagnol cherchait à porter secours à 2 autres embarcations pneumatiques et a été sollicité pour en assister 3 autres, précise la garde civile espagnole, qui prévoyait d'embarquer 1300 migrants, sa capacité maximum. De son côté, les gardes-côtes libyens ont indiqué avoir secouru mardi matin 147 personnes dans l'ouest de la Libye. La plupart des migrants sont du Cameroun, du Soudan, du Sénégal et du Mali. Dimanche, plus de 3000 migrants avaient déjà été secourus en Méditerranée au cours de 31 opérations distinctes et 2 corps sans vie ont été récupérés. Le beau temps favorise ces départs massifs qui compliquent fortement les secours. Avec environ 8300 personnes secourues en 48 heures, le record du 29 août 2016, où environ 7000 migrants avaient été secourus en 24 heures, n'était pas loin. Selon des chiffres du ministère italien de l'Intérieur, plus de 73 000 migrants sont arrivés sur le territoire depuis le début de l'année, une hausse de plus de 14% par rapport à la même période en 2016.
L'armée de l'air égyptienne a bombardé 12 véhicules transportant des armes et qui s'apprêtaient à traverser illégalement la frontière en provenance de la Libye. Selon le Caire, des informations faisaient état de la présence d'éléments criminels qui s'apprêtaient à infiltrer la frontière ouest de l'Égypte à bord de véhicules 4x4.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ici aux États-Unis, d'intenses négociations se déroulent ce mardi en coulisses au Sénat pour tenter de sauver l'une des grandes promesses électorales de Donald Trump. Il s'agit de l'abrogation d'Obamacare, mais les républicains n'ont toujours pas les 50 voix nécessaires pour faire passer leur version de l'assurance santé au Sénat. Les États-Unis ont ajouté la Chine à une liste noire de pays qui, selon Washington, ne combattent pas suffisamment le trafic d'êtres humains. Cette liste de 23 pays comptent également la Syrie, la Corée du Nord et la Russie. Ce rapport annuel du département d'État américain pointe notamment le travail forcé dont fait l'objet la minorité musulmane ouïghour et le rapatriement forcé de réfugiés nord-coréens. L'État néerlandais a été reconnu partiellement responsable du décès de 350 musulmans lors du massacre de Srebrenica en 1995 en Bosnie. Les Pays-Bas ont été condamnés à verser des compensations financières pour les dommages subis par les familles des victimes. C'est le jugement rendu par la Cour d'appel de la Haye. L'enclave de Srebrenica, limitrophe de la Serbie, était placée sous la protection de l'ONU lorsqu'elle a été prise le 11 juillet 1995 par les forces serbes de Bosnie. Au cours de l'évacuation de Srebrenica, les casques bleus néerlandais ont facilité la séparation des hommes et des garçons musulmans tout en sachant qu'il y avait un risque réel qu'ils subissent un traitement inhumain ou qu'ils soient exécutés par les Serbes de Bosnie, a déclaré la Cour. Le Pakistan dénonce la décision des États-Unis de placer sur leur liste de terroristes le chef du groupe séparatiste du Cachemire indien Hizbullah Mujahideen. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VO Afrique et voafrique.com. L'actualité économique en Afrique, on en parle dans la Minute Éco présentée ce soir par Jacques Aristide.
Le Fonds monétaire international va octroyer un prêt de 666 millions de dollars au Cameroun destiné à redresser l'économie sur une période de 3 ans. Le pays a été durement frappé par la chute des prix du pétrole ainsi que par l'insécurité liée aux attaques de Boko Haram. Ces facteurs, d'après le FMI, ont affecté l'activité de la communauté économique et monétaire des États d'Afrique centrale. La Banque centrale du Congo relève à nouveau son taux directeur de 14 à 20% pour endiguer la dépréciation du franc congolais et lutter contre l'inflation. Depuis 2016, la RDC peine à freiner la chute de sa monnaie face au dollar. En janvier dernier, la Banque centrale avait déjà doublé ce taux directeur, mais l'économie est toujours en berne et le niveau de vie des Congolais dégringole. Le Zimbabwe, la Namibie et le Botswana ont suspendu les importations de volailles en provenance de l'Afrique du Sud pour cause de grippe aviaire. Pretoria a confirmé l'épidémie dans au moins 2 fermes après avoir décrété un embargo sur le poulet zimbabwéen. Les producteurs sud-africains ont évalué à 140 millions le nombre de leurs poulets sous la menace si le virus identifié au Zimbabwe venait à se propager sur leur territoire.
La page des sports à présent avec Yacouba Ouedraogo. Yacouba, bonsoir.
Bonsoir Abdourahmane, bonsoir à tous.
On démarre par la Coupe COSAFA, deuxième journée aujourd'hui dans le groupe A.
Le Malawi et l'île Maurice n'ont pas pu se départager, 0-0, un score qui n'arrange pas les deux formations, déjà reléguées aux dernières places du groupe A. En lutte également l'Angola et la Tanzanie, les deux leaders du groupe.
Coupe des Confédérations en Russie, Bernardo Silva incertain pour la demi-finale.
Effectivement, le milieu offensif portugais, touché à une cheville contre la Nouvelle-Zélande, s'est entraîné en marge du groupe hier à Kazan. Il reste incertain pour la demi-finale Portugal-Chili demain. Ricardo Quaresma a du coup de grandes chances d'être titularisé comme milieu ou ailier droit contre le Chili.
Fin du feuilleton Bertrand Traoré.
C'est fait, l'attaquant burkinabé est officiellement un joueur de l'Olympique lyonnais. L'OL a déboursé 10 millions d'euros pour s'attacher les services de l'étalon de 21 ans. Bertrand Traoré s'est engagé pour 5 ans. International burkinabé depuis 2011, 40 sélections, 6 buts. Formé à Auxerre, Bertrand Traoré, désormais ex-joueur de Chelsea, a été prêté la saison écoulée à l'Ajax, 39 matchs, 13 buts.
Arrivé d'un joueur congolais en MLS.
Oui, après 5 années passées en Turquie, l'international congolais Larissa Mabiala, 29 ans, part aux États-Unis. Libre de tout engagement, l'ancien joueur de Paris et de Nice rejoint les Portland Timbers.
À présent, la NBA, le championnat de basket nord-américain, Russell Westbrook, sacré MVP de la saison.
En effet, c'était dans les tuyaux depuis plusieurs mois déjà. C'est désormais officiel. Russell Westbrook a été nommé meilleur joueur de la saison régulière écoulée après avoir tout simplement ébloui tout le monde de son talent. Le joueur d'Oklahoma City est devenu le deuxième joueur de l'histoire à finir une saison régulière avec un triple-double en moyenne, avec 31,6 points, 10,7 rebonds et 10,4 passes décisives par match.
Merci Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. À présent, les dossiers du jour. Parlons de terrorisme ce soir avec cette question. Que devient Madame Ibrahim Diko? C'est le chef du groupe terroriste Ansarul Islam qui a perpétré la plupart des récentes attaques au nord du Burkina Faso. Ce mardi, un communiqué sur une page Facebook attribuée au groupe terroriste a désigné Diafar Diko comme le nouveau chef d'Ansarul Islam. Alors question, Madame Ibrahim Diko a-t-il été tué dans les récentes opérations antiterroristes dans le nord du Mali? Bagassi Koura a joint à Bamako Moussa Diko et les journalistes sur place.
Sous réserve d'être authentifié, parce que c'est un communiqué publié sur une page Facebook, si jamais le communiqué est authentifié venant de Ansar Islam, ça veut dire qu'il y a un changement de leadership au niveau de cette Katiba qui est beaucoup plus affiliée à l'État islamique qu'à Hakimi au Sahel, au Maghreb du moins.
Oui. Alors, dans le communiqué, il parle de circonstances graves. Ça pourrait faire allusion à quoi?
Le communiqué est flou, mais c'est circonstance grave. Et puis quand je vois qu'Allah le facilite, qu'il revient plusieurs fois, on a l'impression que les dernières opérations des forces Barkhane dans cette zone ont sans doute coûté la vie à Madame Ibrahim Diko. C'est l'impression que j'ai beaucoup plus que le monsieur. Soit il a été tué lors d'une opération Barkhane, ou il a été victime d'un règlement de compte au niveau même de son organisation. C'est l'impression que le communiqué donne.
Alors, on dit que son remplaçant, le remplaçant d'Ibrahim Diko, c'est Diafar Diko. Est-ce que vous connaissez cet homme?
Je ne connais pas précisément Diafar Diko. C'est un analyste inconnu qui va peut-être sortir bientôt de l'anonymat. Et il faut surtout craindre des représailles, des opérations d'envergure, parce que chaque nouveau responsable nommé au niveau d'une katiba ou d'une organisation terroriste cherche d'abord à se mettre en évidence pour se faire respecter d'abord au sein de sa katiba.
Parlez-nous de l'importance de Ansarul Islam au sein des groupes islamistes au nord au Mali.
Ansarul a une position très ambiguë parce que, vous savez, récemment, il y a eu une alliance au niveau du Sahel où on a créé une nouvelle alliance commandée par IAD. Mais curieusement, Ansarul n'est pas dans cette dynamique parce qu'Ansarul est beaucoup plus attaché à l'État islamique, comme je l'ai dit plus haut. Mais bon, Ansarul a une puissance parce que c'est Ansarul qui a amené le djihad au Burkina Faso. Ansarul est devenu vraiment un élément très dangereux parce que ces éléments naviguent entre les frontières du Mali et le Burkina. Ils commettent des actes au Burkina, ils se réfugient au Mali, ils admettent des dégâts au Mali et ils retournent au Burkina. C'est ce qui explique d'ailleurs la multiplication des opérations de ratissage des armées maliennes burkinabées et soutenues par Barkhane dans cette zone.
C'était le journaliste Moussa Diko, joint à Bamako.
Dans Washington Forum cette semaine, la situation politique et sécuritaire au Mali, report du référendum constitutionnel initialement prévu le 9 juillet, opposition et société civile qui descendent dans la rue face à une fronde au sein même de la mouvance présidentielle. Quel est le but de ce référendum si le nord du pays ne peut pas y participer? Multiplication des attentats, où en est la lutte contre les djihadistes? Quelle réunification du pays dans ces conditions? Laissez-nous vos commentaires sur la page Facebook de VOA. Et je vous donne rendez-vous ce jeudi à 19h, temps universel, avec Tatiana Mosso et ses invités.
Au Burundi, le chômage des jeunes de 18 à 35 ans, qui constitue 52% de la population, reste préoccupant. Malgré le manque de statistiques assez précises sur les étudiants qui terminent le cycle universitaire, la majorité des diplômés des universités au Burundi est au chômage. Reportage de Christophe Kourounziza à Bujumbura.
Ils sont des milliers d'étudiants qui terminent le second cycle des universités publiques et privées au Burundi. Rares sont ceux qui ont la possibilité d'être embauchés par la fonction publique burundaise et dans des compagnies privées. Fini l'époque où chaque mémorant pouvait choisir être nommé ou promu responsable d'une société étatique ou para-étatique. Ce jeune de 30 ans a terminé il y a 2 ans la gestion et l'administration des affaires dans une université privée de Bujumbura. Il fait de petits jobs dans certains restaurants.
Nous faisons de petits travaux. Par exemple, dans les petits cabarets au Sinaque Bar, nous travaillons comme serveurs ou comme gestionnaires. Nous vivons, vous connaissez la vie socio-économique. La vie est difficile, totalement difficile. Nous demandons au gouvernement d'établir le plan stratégique de lutte contre la pauvreté dans notre pays.
Cet autre chimiste de formation de 25 ans cherche du travail depuis 4 ans. Les recrutements sont gelés depuis plusieurs années à la fonction publique. Ce chimiste se débrouille en donnant des cours au secondaire.
Il y a beaucoup d'étudiants qui sortent des universités alors que l'État qui devait donner l'emploi aux étudiants, il n'a pas de place. On cherche dans des ministères où on affiche les recrutements et on dépose les dossiers, espérant avoir du travail, mais le résultat liste négative.
Cette ancienne université de 30 ans étudie le département d'anglais à la faculté des lettres et sciences humaines. Il passe ses journées à la maison.
Nous vivons d'une façon mal, comme tant d'autres. Vous voyez que nous sommes dans une crise économique, politique. Pas de différence avec ceux qui ont passé au banc de l'école. Ou aussi qui n'est pas passé au banc de l'école. Aujourd'hui, je suis à la maison. Il y a des offres dans tel ministère ou dans telle société, mais quand il arrive pour demander de telles offres, il dit qu'il n'y a rien. Nous demandons à notre gouvernement de vraiment chercher des emplois concernant des étudiants qui ont terminé les écoles pour trouver un emploi pour travailler.
Avec le gel des recrutements à la fonction publique, selon un expert en entrepreneuriat qui a l'anonymat, les gouvernements burundais devraient créer des structures d'encadrement de jeunes pour que ces derniers puissent avoir leurs propres emplois. Mais cet expert a insisté que l'accès au financement de ces structures doit être revu, surtout que l'octroi de crédit est conditionné à des garanties ou à des hypothèques bancaires. Christophe Nkurunziza, Bujumbura, VOA Afrique.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique à Bujumbura sur 94.9 FM au Burundi.
Le Programme alimentaire mondial a demandé à l'Union européenne de l'aider à réunir 1 milliard de dollars au cours des prochains mois pour sauver des centaines de milliers d'enfants menacés par la famine au Nigeria, en Somalie, au Soudan du Sud et au Yémen. Solange Nyamulisa a joint André Vornik et les porte-parole du PAM pour faire un état des lieux.
Nous parlons a priori de 20 millions de personnes qui sont menacées par la famine. Il faut savoir que les chiffres se sont un peu améliorés ces dernières semaines dans la mesure où les deux post-famine auxquels on avait affaire au Soudan du Sud ont été plus ou moins résolus. Alors on a réussi à, disons, amoindrir l'impact en réussissant à prépositionner de la nourriture de façon à venir en aide aux populations. Et il faut dire aussi qu'on a bénéficié d'un accès humanitaire un peu plus accru que ce n'était le cas auparavant. Cela dit, il faut quand même souligner qu'il reste toujours 20 millions de personnes sont dans un état d'insécurité alimentaire aiguë et qui sont toujours sur le bord de la famine.
Et quelles sont les régions touchées tout justement par cette famine ?
Alors nous avons affaire au nord-est du Nigeria où nous avons 3 États, surtout l'État de Borno, qui sont les États en fait les plus touchés par l'insurrection de Boko Haram. Vous avez une partie de la Somalie, vous avez le Sud-Soudan et vous avez bien sûr le Yémen. Il s'agit essentiellement d'un conflit qui perdure et qui met en danger quasiment la totalité du pays.
Ce n'est pas la première fois que le PAM vient de lancer un tel appel. Et si vous ne recevez pas l'argent, qu'est-ce qui va se passer ?
Si on ne reçoit pas l'argent, des gens vont mourir. Et nous parlons effectivement de beaucoup de personnes. Évidemment, il n'y aura sans doute pas 20 millions de morts, mais nous parlons quand même potentiellement, par exemple, de 100 000 enfants qui souffrent de malnutrition et qui risquent effectivement de perdre la vie. Il faut savoir aussi que la famine, c'est quelque chose qui frappe d'une façon extrêmement aiguë les populations, mais que si on intervient trop tard, même si on arrive à réduire l'impact dure quand même pendant des années. Il faut savoir quand même qu'il s'agit d'une perte de la force productive de divers pays.
Combien d'argent avez-vous besoin pour répondre à ces besoins ?
Grosso modo, nous parlons d'à peu près 1,1 milliard de dollars répartis sur les 4 pays. Bien sûr, ce n'est qu'une partie des chiffres nécessaires sur la longueur de l'année, mais il faut savoir que cette crise touche tout le monde et nous comprenons d'une certaine façon le fait que les pays donateurs soient un peu moins disposés à payer pour essayer de remédier à cette tragédie, dans la mesure où bien sûr il y a des pressions budgétaires internes, dans la mesure où il y a une profusion de crises qui se déroulent sous nos yeux. Mais nous en appelons quand même à la solidarité internationale sur ce dossier. Et il faut savoir que nous ne nous bornons pas seulement à demander de l'argent. Nous demandons aussi à ce que pression soit faite sur les parties en conflit, parce qu'il faut savoir que dans quasiment toutes ces zones qui sont affectées, les parties en conflit ne respectent pas le droit humanitaire.
C'était André Vornik, le porte-parole du Programme alimentaire mondial. Et on termine avec le Vietnam, où un blogueur déchu de sa nationalité a été expulsé vers la France, où il est arrivé dimanche. Pham Minh Hong, 62 ans, est le premier dissident à se voir retirer sa nationalité vietnamienne. Ce professeur de mathématiques avait déjà été condamné en 2011 à 3 ans de prison, puis à 3 années d'assignation à résidence. Idriss Fall a joint à Paris Pham Minh Hong, le blogueur expulsé du Vietnam.
Le gouvernement vietnamien a retiré ma nationalité vietnamienne par un décret signé par le président. Et la police veut que je quitte le Vietnam tout de suite. On a déjà envoyé une lettre de recours au ministère de la Justice. Mais au moment que je vous parle, on n'a pas encore reçu la réponse.
Dans quelles conditions vous avez été expulsé du Vietnam?
Le vendredi 23 juin, sous prétexte de contrôle de routine. Quand j'ouvre la porte, 5 personnes arrivent en force. Ils commencent par me montrer un document. Il m'a dit que ma situation est irrégulière parce que je suis plus vietnamien et je n'ai pas de visa. Dans ce cas, ils me demandent de les suivre pour, entre guillemets, régulariser ma situation. Mais tout le monde sait que c'est un prétexte pour me faire sortir, m'arrêter et après m'expulser du Vietnam. Il a sorti le deuxième document, c'est un ordre d'expulsion. La date, le 24 juin, c'est-à-dire le samedi. J'ai décidé de ne rien signer, de ne pas quitter. Tout de suite, il ouvre la porte. 10 autres personnes, c'est-à-dire dans ma maison, il y a environ 15 personnes. Il me force de quitter la maison sans me laisser le temps de réhabiller. J'ai seulement un caleçon et un maillot vraiment très léger. Et puis on m'a poussé hors de ma maison. Quand j'étais dehors, je suis vraiment horrifié par le nombre de policiers qu'on m'a fait autour de chez moi. Il y a environ 40 à 50 personnes. Ils ont employé des moyens très forts, comme des gros camions pour barrer la route, pour isoler tout le quartier. Personne n'a osé de protester.
C'est après qu'ils vous ont mis dans l'avion le samedi pour aller sur
Paris? Non. Après, il m'a transporté vers un centre de détention provisoire en attendant l'expulsion, c'est-à-dire le samedi, le consul français arrive pour me dire que tous les recours contre la décision présidentielle étaient inutiles parce qu'au Vietnam, selon la loi, le seul organe qui puisse protester contre le décret présidentiel, c'est le comité permanent de l'Assemblée nationale. Et vous savez que dans un pays totalitaire comme le Vietnam, ils sont tous le même clan.
Qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Qu'est-ce que vous allez faire?
Je ne sais pas encore, mais je vous dis tout de suite que je continue à militer par mes moyens. Maintenant, mes moyens sont assez limités. Je suis loin de ma famille, loin de mes amis au Vietnam. Mais je tente de faire le maximum possible pour continuer la lutte pour la démocratie au Vietnam.
C'était le blogueur vietnamien Pham Minh Hong.
Salut les amis, Roger Montou, la voix de l'Amérique. Restez branchés chaque mardi dans l'émission RM Show entre 20h et 21h, temps universel. Au menu, antenne libre, des sujets, débats. RM Show donne la parole aux auditeurs de la VOA. Ne ratez pas votre émission interactive. RM Show vous dit Peace Africa.
Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. À la mise en onde de Georges Léonard Sagnot, présentation Abdelrahman Dia. Ainsi va le monde aujourd'hui. On reste en contact sur Facebook et rendez-vous également sur notre site voafrique.com pour l'actualité 24 heures sur 24. Au revoir.
écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. N'Djamena sur 93.1 FM, Kledou FM Bamako, Raga FM Goma, 96.5 Fraternité FM, Parakou Bénin et bien d'autres encore, sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.